La grande aventure de l'écriture, première partie. Lascaux. Des dessins sont tracés sur les parois d'une grotte, il y a plus de 150 000 ans de cela. Mais il n'y a que 6 000 ans que l'écriture est née. Cela commence en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, entre les pays de Sumer et d'Akkad. Uruk. Sa population est alors composée de prêtres, d'employés dans les cours royales, de marchands et de paysans. Les premières tablettes d'argile découvertes à l'emplacement du temple de la cité d'Uruk représentent des listes de têtes de bétail, de sacs de grains, mais d'autres renseignements sur l'organisation de communautés religieuses. L'outil utilisé pour tracer l'écriture est le kalam, qui est un bout de roseau taillé en pointe. Les descriptions représentent des objets ou des êtres. Ces pictogrammes sont associés pour représenter des idéogrammes. Évidemment, le nombre de pictogrammes doit être important afin de représenter un grand nombre de concepts. Les chercheurs ont dénombré 1500 représentations. Cette façon d'écrire va évoluer. Le pictogramme ne représente plus alors un objet, mais doit tirer son sens du contexte. Alors, les pictogrammes primitifs disparaissent pour être remplacés par l'écriture cunéiforme. Pour représenter cette écriture cunéiforme, le kalam est désormais taillé en biseau. Les signes sont tracés dans de l'argile fraîche afin de laisser une empreinte. Dans les régions fluviales du pays de Sumer, l'argile et les roseaux abondent. Les formes écrites ressemblent à des clous, d'où le nom donné d'écriture cunéiforme, soit clou, cuneus en latin. Cette écriture nécessite déjà moins de signes, mais il en reste tout de même 600. Il est toujours nécessaire d'avoir une bonne mémoire pour écrire, malgré les listes de ces signes élaborées par les scribes. Un autre progrès important consiste à associer les signes au son des mots de la langue parlée, le phonétisme. Les Sumériens, comme les Égyptiens, utilisent donc le principe de rébus. Un signe ne représente plus un objet ou un être, mais un son. L'exemple du chapeau est très parlant. Afin d'écrire le mot « chapeau », il faut associer le signe du chat à celui du pot. Avec la dominance des Akkadiens en Mésopotamie vers 2000 avant Jésus-Christ, l'Akkadien devient la langue principale dans le pays. Elle est alors retranscrite en écriture cunéiforme. L'écriture cunéiforme se développe vers 1760 avant Jésus-Christ et devient celle du royaume de Babylone, puis du royaume d'Assyrie. C'est un moyen de garder la trace de la langue parlée, cela grâce à la correspondance ou pour graver les hymnes religieux. L'épopée de Gilgamesh est transcrite par les Sumériens sur des tablettes d'argile. Elle retrace les aventures de Gilgamesh, roi d'Uruk. Cette écriture va se répandre et être adaptée à d'autres langues comme l'élamite, qui est la langue du peuple de l'Élam, l'hittite, la langue du peuple d'Arabie, et le vieux perse. Bien sûr, outre la Mésopotamie, l'écriture se développe dans d'autres régions du monde. Mais tout le monde ne peut pas lire et écrire le cunéiforme. Ceux qui connaissent l'écriture, les scribes, sont formés dans des écoles qui leur sont réservées. La discipline y est très sévère. Cela en vaut la peine, car détenir ce savoir donne du pouvoir. Et l'Égypte, me direz-vous. Non loin des Sumériens, les Égyptiens développent les hiéroglyphes. Selon les Égyptiens, c'est le dieu Thoth qui a créé l'écriture et en a fait don aux hommes. Hiéroglyphe signifie « écriture des dieux ». Les premiers documents découverts datent du 3e millénaire avant notre ère. mais l'écriture hiéroglyphique est apparue un peu avant, vers la fin du 4e millénaire avant notre ère. Elle est utilisée pendant plus de 3000 ans. Au cours de son évolution, cette écriture est passée de 700 à 5000 signes environ. Son originalité vient du fait qu'elle combine des pictogrammes, c'est-à-dire des dessins qui représentent des êtres ou des choses et des combinaisons de signes afin d'exprimer des idées, des phonogrammes, qui sont eux des dessins qui représentent des sons, à l'instar des Sumériens et du principe de rébus, et des déterminatifs afin d'indiquer la catégorie des êtres ou des choses liées à l'ensemble. Il faut lire les hiéroglyphes de la droite vers la gauche généralement, parfois de la gauche vers la droite, et même alternativement, droite à gauche et la ligne suivante de gauche à droite. C'est l'écriture dite de Boustrophédon, soit comme le bœuf qui va et vient quand le laboureur lui fait tracer des sillons. Ces signes sont gravés sur la pierre, dessinés ou nous les retrouvons sur les murs des temples, sur les parois des tombes. Elle est utilisée pour glorifier les nombreux dieux de l'Égypte ancienne, mais pas uniquement à ses fins. En effet, les Égyptiens rapportent leur histoire, retracent les événements comme les mariages royaux, les batailles, tout cela dans un ordre chronologique. L'écriture est utilisée dans le cadre judiciaire, la littérature, la géographie, les sciences de l'art divinatoire, la médecine, la cuisine, l'astronomie, ainsi que dans les mesures du temps, le calendrier devient solaire après avoir été lunaire et dénombre 365 jours, un quart dans l'année. À l'instar de la Mésopotamie, savoir lire et écrire en Égypte est un privilège. L'enseignement est ardu. Mais les scribes forment une caste puissante. Outre l'écriture, les élèves apprennent la grammaire, le droit, l'histoire, la géographie et la comptabilité. La pierre reste un support. Mais les Égyptiens utilisent un matériau plus léger, le papyrus. Cette plante que l'on trouve en abondance en Égypte et qui est très utilisée dans la fabrication des cordages, sandales, voiles, nattes. C'est avec le papyrus que les feuilles sont créées. Un rouleau est composé de plusieurs feuilles et peut mesurer plusieurs mètres de longueur. La plupart du temps, le scribe est assis en tailleur et le papyrus est déposé sur son pagne. Il écrit en déroulant le rouleau et au fur et à mesure de la rédaction, la partie écrite est enroulée. Les signes sont tracés grâce à un roseau dont l'extrémité est martelée ou taillée. L'encre noire est un mélange de poudre, de suie et d'eau, avec un fixateur comme la gomme arabique. Pour les titres et début de chapitre, c'est de l'encre rouge qui est utilisée. Elle est fabriquée avec de la poudre de cinabre, qui est le mercure, et du minium, du plomb. Le papyrus, monopole de l'État, est onéreux. En témoignent les papyrus dont le texte initial a été gratté pour pouvoir réutiliser les feuilles. Le cuir onéreux lui aussi est réservé au texte de grande valeur. Il reste l'écriture sur la pierre calcaire et la poterie qui sont les plus abordables. L'écriture hiéroglyphique demande patience et minutie. Pour les activités quotidiennes, une écriture voit le jour à la même époque à peu près, l'écriture cursive ou hiératique. Elle représente les mêmes caractères que les hiéroglyphes, mais le tracé est plus simple. Vers 650 avant Jésus-Christ, une autre écriture voit le jour. Il s'agit de l'écriture démotique ou populaire. Elle est plus claire et plus rapide. Les lettres sont liées entre elles. La lecture s'effectue de droite à gauche. Sur la fameuse pierre de Rosette, le même texte est écrit en hiéroglyphes, en démotique et en grec. la langue copte a permis de retrouver la langue de l'Égypte ancienne. Mais dans l'écriture copte, il reste encore des caractères issus de l'écriture démotique. Et voilà un mystère. Le disque de Phaïstos, découvert en Crète en 1906 par des archéologues italiens, est un disque d'argile couvert sur chaque face de hiéroglyphes enroulés en spirale. Il daterait du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Sa provenance, son utilisation, sa fonction sont encore un mystère. Ont aussi été découverts dans l'ancienne cité de Knossos, au milieu du XIXe siècle, des fragments couverts d'inscriptions. L'écriture chinoise est encore utilisée de nos jours. Pourtant, elle a été créée vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les caractères chinois se calligraphient traditionnellement avec un pinceau et de l'encre. Selon une légende, l'empereur Wang Shi, qui aurait vécu au XXVIe siècle avant Jésus-Christ, aurait trouvé l'écriture. Comment ? En étudiant les corps célestes et les objets naturels, principalement les empreintes d'oiseaux et d'autres animaux. En 1898-99, après la crue d'un affluent du fleuve Jaune, des fragments d'écailles de tortue et d'omoplates de cerf sur lesquels des inscriptions figuraient ont été mises à jour. Comme en Mésopotamie ou en Égypte, en Chine, les premiers signes ont été des pictogrammes et des combinaisons de pictogrammes. Rapidement, ces pictogrammes ont été stylisés. Cette calligraphie est empreinte de poésie. Selon la graphie, un seul son prononcé peut signifier plusieurs choses. Chaque caractère s'inscrit dans un carré. Il se compose d'une clé qui représente le sens et d'une partie phonétique qui indique quelle doit en être la prononciation. Les traits qui composent les caractères doivent être tracés dans un ordre précis. Le chinois au quotidien se lit de gauche à droite. En revanche, le chinois savant et de la poésie se lit de haut en bas et de droite à gauche. Alors, me direz-vous, qu'en est-il de l'alphabet ? Nous verrons cela dans la seconde partie de notre grande aventure.